Donc une des quatre idées fondamentales, précieuse existence humaine, quel que soit l'objet de méditation, que ce soit un tiglé, des souffles, une émotion, une sagesse, une divinité, c'est toujours un objet cognitif. Cet objet cognitif, l'illusion, c'est on pense que l'objet précède le fait de le connaître. Et donc ça donne le sentiment qu'il y a quelque chose comme étant une altérité, ce qu'on appelle un autre en soi, distinct du moi en soi. Et la méditation consiste justement à enlever cette illusion sur l'objet. Mais il ne s'agit pas d'enlever l'objet. L'objet cognitif restera un objet cognitif, et le sujet cognitif restera un sujet cognitif, se sachant être moi et pas l'autre. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Si on pense à un papillon, on se distingue bien du papillon, on ne se prend pas pour le papillon. Je ne comprends pas cette anecdote où on dit un grand maître dit à ses élèves, j'ai rêvé d'être un papillon, mais je ne sais pas si finalement, c'est pas le papillon qui a rêvé de moi. Pour moi, c'est douteux, c'est un schizophrène, ou, enfin, un gros problème. Hein. Donc, attention. Et quand on médite des divinités extérieures, on se distingue bien d'une divinité qui a été complètement conçue par la nature de l'esprit, et on ne se prend pas pour une divinité extérieure. Sauf si on fait le taquet, on s'appréhende de façon autre, bien sûr, etc. Donc il y a toujours une triade objet, sujet et connaissance. C'est une triade cognitive. Quand on connaît, il y a toujours ces trois-là. Et la coémergence, c'est respecter cette connaissance. Connaisse, se connaît, vous voyez. C'est né en même temps. Coémergence, sahaja. D'accord ? Donc il ne s'agit pas d'essayer de s'embrouiller l'esprit pour plus se savoir sujet ou pas savoir d'objet. Là, on va faire ce qu'on appelle l'hypovigilance et jusqu'à une léthargie mentale où ça amène des bien-être. Mais sont suspects ces bien-être. Méfiez-vous hein, du bien-être associé à la torpeur subtile, les léthargies mentales, qu'on appelle suspens karma. Notre activité mentale est suspendue et ça donne des paradis artificiels, des fonctionnements zombiques. Voilà, mais bien, on est en bien-être. Et là, c'est très dangereux. Ce qu'on appelle la neutralisation de la sensation. J'insiste beaucoup. La neutralisation de la sensation, c'est le vrai terme, c'est expérience. Ne plus se sentir en train de connaître, d'expérimenter la connaissance. Miyowa, ça veut dire. Si on s'accroche à ça, on prend pour vraiment un bien-être en tant que tel, et on confond ce bien-être avec la nature de l'esprit, on a des propensions à renaître dans le monde des dieux sans forme, ou des fois avec forme. Mais pas le monde des dieux avec désir. Des plans où, finalement, c'est une impasse, etc. C'est du samsara. Le mot dieu, il est ambigu ce terme-là, mais disons une sphère d'expérience où il y a des êtres qui sont carrément perchés, une sorte d'autisme mental. Donc, bien comprendre ça. Neutralisation de l'activité karmique qui fait faire expérience. Donc, en quelque sorte, on s'anesthésie d'une faculté cognitive. C'est très dangereux. Le Bouddha a bien mis les choses en place, et c'est pour ça qu'il prévient les quatre samadhis de samatha, de shiné, n'éveille pas. Et même samatha n'éveille pas. C'est vipassana qui éveille. C'est-à-dire la réalisation où on prend conscience d'une illusion. Et on se désillusionne. C'est un éveil. Il y a petits éveils, puis un grand éveil. J'insiste beaucoup, parce que avec Vajrasattva, avec le mantra de 100 syllabes, il est soporifique ce mantra. Je ne sais pas pour vous, hein, mais... Voilà. Il faut se méfier, pas se laisser aller à la torpeur, parce que la torpeur s'exprime toujours par un bien-être. Oh, je suis bien, puis oh, j'ai pas envie de faire plus, j'arrête le mantra, la main se baisse, comme ça... Vous voyez, c'est zombique. Il faut être vif, alerte, miyowa. Ça se dit suspend d'activité. Activité, c'est karma, c'est activité mentale. Et souvent, il y a une erreur qui est faite quand on enseigne l'agrégat sensation, l'agrégat expérience. Souvent, on dit qu'il y a trois types de sensations, agréables, désagréables et neutres. C'est une erreur. Il y a deux sensations possibles. C'est même pas agréable ou désagréable, c'est une activité mentale d'expérience où on agrée ou on désagrée. L'expérience, c'est action, activité. D'accord. Et le neutre, c'est neutralisation de cette capacité d'expérience cognitive. Et des fois, il y a des gens qui ont l'art de pouvoir suspendre leur système karmique, leur karma, en tant qu'activité mentale. On suspend le karma. Et là, tout peut venir. Des images, des sentiments, etc. Mais c'est des images dues à nos schémas karmiques, à nos fantasmes et nos attentes, et ainsi de suite. Et si on bascule après la mort, et ben c'est ça qui va se poursuivre. On voit bien, hein, des fois, des images toutes faites. Quand on est un peu fatigué, on somnole. Les images viennent. D'accord ? Hein, c'est l'imago. C'est conçu. C'est un concept. Mais il n'est pas discursif. Il y a moins de discours. Il y a de l'imago. Et cette image, soit c'est de l'ordre du fantasme, soit c'est de l'ordre de la maîtrise, avec une portée symbolique, une sublimation de l'image pour arriver à une réalité de la nature de l'esprit. Alors effectivement, quand on fait le yoga du rêve, on utilise l'hypovigilance. C'est plus facile pour ne plus avoir de discours mental. Mais on chope, hein, je dis souvent, on prend le train en marche du continuum imago, l'imagination. Et on est maître de l'imagination. Tout objet de méditation, et même si nous-mêmes nous méditons en tant que divinité, on devient objet cognitif. Et c'est possible parce qu'il n'y a pas de moi en soi. S'il y avait un moi en soi, il ne pourrait pas devenir l'objet de nous-mêmes. Quand on se pense, on devient objet. Donc c'est assez facile, hein, pareil, si on comprend ça. Et tout objet, quel qu'il soit, quel que soit le niveau de méditation, Hinayana, Mahayana, Vajrayana, c'est un objet cognitif. Ce n'est pas l'objet qu'on met en cause, c'est la réalité intrinsèque qu'on met de cet objet qui nous fait penser qu'il est une altérité, c'est-à-dire un autre en soi. Bien sûr que l'objet est autre que moi, mais altérité, oui, une saisie d'un autre en soi. Toute expérience est conçue. Tout ce qui est connu est conçu. Le connu ne précède pas la connaissance, il coémerge. Et ce connu s'appelle phénomène. Ce phénomène a un autre sens que le mot phénomène en science. En météorologie, on observe des phénomènes météorologiques, une activité de la manifestation matérielle. Oui. En philosophie, phénomène, c'est ce qui devient accessible à la connaissance. Une compatibilité, le phénomène est d'ordre mental parce que la connaissance est d'ordre mental. Donc je reprends l'exemple d'un son. Quand je cogne le son, je crée une onde de choc. D'accord ? L'onde de choc n'est pas audible. D'accord ? Il n'est pas audible. Il faut un organe d'un corps biologique, parce qu'on est dans le cadre de la matière, un organe d'ordre biologique compatible pour ressentir la vibration. À partir de là, on est un être biologique animé d'âme et d'esprit. Donc de faculté, on appelle ça faculté sensorielle. La faculté traduit l'onde, etc. Il cède aussi éventuellement du cerveau, machin, etc., etc. Et ensuite, il y a un passage où toute cette retraction va se traduire en phénomène mental. C'est-à-dire compatible à être coémergent à une science qui devient conscience de son. Et le son n'est pas une onde de choc, c'est un phénomène mental audible. Et l'onde de choc n'est pas audible. On fait ça pour toutes les expériences. La lumière extérieure passe par une traduction de rétine et on dit rouge. Et rouge est un phénomène. Il n'a pas d'existence extérieure. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est un rappel pour expliquer où se trouve la réalité ultime, où se trouve la réalité relative. Bien sûr, on verra du rouge et pas du vert. Il y a un respect de la production interdépendante, de l'interdépendance des choses. Donc ça, c'est pour expliquer les deux types de vérité. Pour expliquer succinctement où se fait l'illusion, pour savoir qu'est-ce qu'on veut reconnaître comme illusion. Et en pratiquant Vajrasattva, il faut avoir cet objectif. On fait Vajrasattva pour réaliser l'illusion. Et réalisant l'illusion, eh ben, son contraire, c'est ce qu'on appelle un éveil. C'est-à-dire on se désillusionne. C'est ce qu'on appelle l'aspiration à l'éveil. On aspire à réaliser la vacuité. Réalisant la vacuité, la vacuité de nos illusions, et bien on s'éveille. Vajrasattva a une spécificité. C'est sur la saisie de la conscience de base, alaya. On a une conscience base, mais plutôt que conscience, il faut garder le mot science, on enlève le con, d'accord, si vous voulez, hein, sans jeu de mots. Hein, on enlève le con, il reste science, gnose. On connaît bien ça dans notre ésotérisme hein, chrétien, et même philosophique. Gnose, hein, chez les Grecs. Gnose, c'est science. Savoir, avec l'idée de sagesse et l'idée de goûter, sapere. C'est la même étymologie. Savoir goûter, c'est-à-dire un savoir qui n'a pas besoin de discours. C'est l'expérience immédiate. Parce que le connu et la connaissance sont immédiats. Je suis sûr qu'on a tous fait l'expérience des moments de grâce comme ça, d'immédiateté, même ne serait-ce qu'en goûtant un vin. Il y a eu un silence qui est fait et on connaît le vin. Vous voyez, on sait le vin. Ou autre chose, la peinture, un moment de créativité. Même la peinture, on s'en fout. Il y a un moment de créativité, de symbiose, de synthèse, de synchronicité, vous voyez. Ben, on est dans ce sahaja. Le sahaja, il se produit malgré nous, des fois. Nous, on est à côté de nos pompes. On est à côté de l'instant de chaque instant. Donc on se revérifie pour se savoir qu'on existe. Ben, vous avez perdu un instant. Le sentiment de présent est déjà passé. C'est une élaboration construite. Il n'y a pas de présent, au sens non-temps. Vajrasattva, c'est la nature, donc cette science, une part de notre être, ce n'est pas notre être. Mais le fonctionnement de la conscience, c'est une des instances de l'individu, mais c'est la plus prédominante. Donc cette science, on l'appelle esprit, ou alayajnana, donc science de base. C'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître en dehors de cette science, on ne peut pas échapper à cette science et prétendre pouvoir connaître. Donc elle est base toute, omniprésente, omnisciente. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de catégorie au phénomène. Donc tout phénomène s'adapte. On appelle ça omniscience. D'accord ? S'il y a un phénomène d'ordre de l'audible, cette science devient conscience auditive. S'il y a une odeur, un phénomène qui vient de l'olfactivité, il va y avoir science olfactive, et ainsi de suite. Et puis, la sixième étant la conscience mentale. Si un phénomène, c'est de penser quelque chose du son, ça devient une pensée, et bien, la science prend la casquette de conscience mentale. C'est-à-dire qu'il reconnaît une pensée de quelque chose. Vajrasattva, c'est... Vajra veut dire immuable, sattva veut dire l'être, le principe ontologique, pour être plus sérieux. L'être, ça va. Vajra, notre être, immuable, ou l'immuabilité de notre être. C'est cette science immuablement pure. Il n'y a pas lieu de se purifier. Il y a lieu de dissiper le malentendu pour voir qu'on a toujours été pur. Vous voyez la différence? Parce que la connotation, beaucoup de gens disent « je suis impur », ça y est, t'es à côté de toi. D'accord? Ou même « je suis pur ». Attention, hein. Mais vous voyez, pur, ça veut dire innocent, simple, la simplicité même, l'immédiateté, l'instantanéité, etc. etc. Voilà. Donc on est pur, immaculé, on ne peut pas maculer cette science de base par nos illusions. Nos illusions peuvent même nous conduire à la haine et tuer. Cette science est immaculée, indemne, innocente et indemne. On ne peut pas la maculer. Le pire des actes que pourrait faire un être humain, nous on l'appellerait monstre, c'est monstrueux, oui, mais il est indemne. Toute rédemption est possible. Cette nature, j'ose dire, cette nature de la base toute est miséricordieuse. Par contre, on va en chier dans l'illusion, bien sûr. Et c'est fait pour la science. La science et compassion, c'est, elle va être juste à ce qui est injuste. Elle va être juste à ton injustice. C'est pas programmé de tuer. Et donc, elle va nous faire un malaise, un inconfort. D'accord ? C'est la compassion. Donc cette conscience, cette science de base, est compassion, amour, bienveillant. Moi, je dis bienfaisante. Elle est bienfaisante. On vit un regret, par exemple, c'est bienfaisant pour nous. Si on ne vivait pas de regret de ce qu'on a fait de mal, si on n'avait pas de regret, ce serait grave. Donc Vajrasattva, c'est cette nature primordialement pure, indemne, de toutes nos illusions, toutes nos conneries. On peut dire que c'est une hypothèse, n'est pas obligé d'y croire. Et le Bouddha nous dit, vérifiez. Mais je suis sûr qu'on a déjà eu des petites entrevues, ces moments, des regards de notre propre intimité. Vajrasattva, c'est le nom d'une nature de l'esprit, ce n'est pas une divinité. Le Tantra en a fait une divinité humanoïde, anthropomorphique. Parce que les Tantras demandent une sentimentalité qui va être une méthode. C'est plus facile de s'identifier, mais en yoga, on pourrait faire un tigre blanc, ou alors rester dans la nature qu'on appelle Vajrasattva. Dans le Sahaja, le Vajrasattva, c'est la nature de la coémergence pure. Donc Vajrasattva n'est pas le nom d'une divinité, c'est le nom d'une qualité inhérente de cette science. Et le Tantra en a fait une divinité, avec des textes, machin, etc. C'est très tardif, hein, d'accord, les Tantras. Hein. Les Tantras utilisent donc une visualisation de divinité anthropomorphique avec accompagnement de mantra qui représente le verbe secret, notre verbe Vajra, on l'appelle, le logos, on dirait peut-être, c'est-à-dire la cohérence de cette pureté primordiale. Alors que notre langage, notre verbe, est plein de confusion, il peut être révélateur de nos psychoses aussi, hein, en psychanalyse, vous voyez, etc. Donc là, c'est pour bien cibler l'objectif de Vajrasattva. Toucher notre conscience primordialement pure, immuablement pure même. Immuable, primordialement pur, ça veut dire depuis des temps sans commencement, et il le sera tout le temps immuablement. Alors on peut se dire, chouette, je vais pouvoir déconner, mais on aggrave quand même notre cas karmiquement parlant. On s'éloigne de plus en plus, on aura de moins en moins de chance, donc il faudra plus de vie pour commencer à décalaminer hein, les fonds, les tuyauteries de nos canaux, etc. On rajoute des couches. Hein. Frère, on est doué pour en rajouter des bonnes couches. Hein. Voilà, je fais une petite intro, de rappel.